Évidemment, enfin, je crois, à mon avis, on a commenté et même précédé le commentaire sur le texte. Alors, si vous voulez bien, on s'était arrêté au périple Guimel, au chapitre 3, et qui veut bien prendre la suite.
Bonsoir.
Hein, périple Guimel.
C'est complet, monsieur.
À la fin du Pérégimel. Rabotaille, veuillez vous installer. Alors, quel pas, Alain, tu te souviens, toi, Alain? Vers la fin, je suppose. Michael, tu veux y aller? Ah, vas-y, Michael. On était vers la fin du Guimel et on doit attaquer le Dalet qui...
Tezain. Ve'yardu ha'mayim ha'yordim elemala kamo ned echad arhek me'od me'adam ha'ir asher mitzad tzartan ve'yordim al yam ha'arava yam ha'melach tamu nirchatu ve'ha'am avru neged yericho. Ve'yamdu ha'kohanim nosei ha'aron brit Adonai ve'harava betoch ha'yarden achen. וכל ישראל עוברים מהם בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. נגמר הפרק.
נגמר הפרק, donc on en était resté là, à savoir que ce sont les Kohanim porteurs de l'Arche Sainte, de Aaron Abrit, qui vont poser les pieds sur l'eau, qui va maintenant s'amonceler. L'aval va descendre jusqu'à la mer morte, et donc la rive gauche, ce qui est à notre gauche, va être asséchée. Et en amont, l'eau va constituer une muraille colossale, à tel point que nos Hachamim dans la Gemara de Sota, page 33, discutent pour l'un la muraille d'eau en amont qui va s'élever comme ça, Kemoned Nozil, d'ailleurs ça évoque la Shira aussi, Kemoned, Ned c'est une muraille. Aurait atteint une hauteur de 12 000 interhébraïques, mais regardez, on le retrouve en anglais aussi. Il y a à peu près 12 km de hauteur, c'est prodigieux.
Wow.
Absolument colossal, incroyable. Ce qui est physiquement possible, plausible, compte tenu de la durée que les Béné Israël, on a 12 tribus quand même, hein, c'est pas pour rien que ce chiffre vient. Et vont mettre pour traverser le Yarden, large à peu près de 50 amas, 25 mètres en français. Et donc, mais la deuxième opinion est encore plus radicale, puisqu'elle dit que la muraille était haute de 300 km de hauteur, à tel point que les nations environnantes vont naturellement être impressionnées. Je pense qu'il s'agit d'une mesure très symbolique,
oui, c'est plus symbolique,
ce qu'on appelle une bouzma généralement dans la Gemara. Lorsqu'on veut dire qu'on veut signaler un chiffre important, alors on n'hésite pas à énoncer des... Mais derrière la bouzma, l'exagération, se cache quelque part peut-être un symbole qui n'est pas facile à détecter. Le premier me paraît évident, les 12 000, les 12 km de hauteur correspondent, si vous voulez. C'est-à-dire la hauteur, depuis le sol jusque le haut, 12 km, c'est exactement la largeur du camp d'Israël. Le Mahane Israël, dans le désert, dans le Midbar, était justement large de 12 km et long de 12 km. C'est-à-dire la largeur et la longueur, c'est pareil. C'est-à-dire tout le camp d'Israël s'étendait, hein, c'était un immense carré de 12 km sur
12.
C'est une manière de dire que la traversée, l'entrée en Eretz Israël n'est pas simplement une entrée horizontale, mais aussi une entrée verticale. Et ici, les eaux représentent ce qu'il y a de plus menaçant d'un côté, mais de l'autre aussi de plus merveilleux. L'eau peut détruire et l'eau peut régénérer. C'est avec l'eau que justement on peut purifier l'être humain, mais c'est aussi l'eau qui peut être, comme dans le Maboul et dans le déluge, destructrice au plus, n'est-ce pas? Et donc on est là, et on est à la fois sous la menace, à cet instant très, très, très important, sous la menace d'un cataclysme incroyable, mais aussi on est aussi sous le couvert de quelque chose, comme on dit, Enmaïm et la Torah. Alors, c'est peut-être ce qui expliquerait symboliquement cette muraille de 12 kilomètres de hauteur. C'est assez impressionnant. Quant aux 300, on n'a pas eu le temps, mais on n'a pas vu, mais le Maharal de Prague aurait indiqué, sans le commenter, que ce chiffre de 300 correspond. Vous savez que les centaines, les 1000, les 100 et les 10, au niveau du symbole, correspondent à des, ce qu'on appelle des sphères, à des dimensions différentes, comme dans la Kabbale, vous voyez. Plus, quand tu t'élèves, quand tu es dans la première sphère, tu es dans le monde, j'appellerais ça des unités. Quand tu t'élèves un peu plus, tu es dans le monde des dizaines. Encore un peu plus, dans celui des centaines, etc. jusqu'au chiffre 1000, d'accord. Donc ici, le 300, les 300 000, d'après le Maharal, je ne sais plus, dans le native de Nessa, dit, sans s'étendre, qu'il s'agit des trois mazalotes, voilà. 300, ça veut dire les trois mazalotes, c'est trois dans la série des centaines, ce qu'on appelle au niveau des centaines. Ça veut dire que pour réaliser ce prodige de l'ouverture du Yarden, Hachem a fait appel à l'ouverture de trois mazalot, moi je dirais de trois sphères si vous voulez, hein. Il a engagé trois forces, trois énergies spéciales. Bon, à nous de rêver à cette notion-là, sans plus. S'agit-il de Hesed Geburah Tiferet, s'agit-il de Keter Hokma Obina, peu importe. Ça veut dire qu'il y a ici tout un univers, tout un cosmos, toute une quelque chose de très très haut qui supervise l'entrée du peuple d'Israël et qui salue notre entrée, Baruch Hashem, notre Aliyah. Ici en Eretz Israël, que chacun qui prend l'avion, si Dieu veut, pour venir ici, ben imagine qu'il entre comme ça en Eretz Israël.
Yerushalayim.
Voilà. Nous sommes donc au chapitre 3. Nous entamons le Perek Dalet.
Pasuk Aleph. Vaïch asher tamu kol agoy la'avor et ha'yarden, vayomer Adonai l'Yoshua l'emor. Kru lachem min ha'am shematar anashim ish echad mishavek. Vetzavu otam l'emor, tzu lachem mizeh mitoch ha'yarden, ממצב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, והנרתם אותם במלון, שתלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל 12 איש, אשר הכין מבני ישראל, איש אחד, משבט. ויאמר להם יהושע, עברו לפני אהרון, אדוני אלוהיכם, אל תוך הירדן, ורימו לכם איש אבן אחת על שכמו, למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי שאלון ביניכם מחר למור, מה האבנים האלה לכם, ואמרת להם אשר נכרתו מימי הירדן, מפני ארון ברית אדוני בעוברו בירדן, נכרתו מהירדן, והיו האבנים האלה לזיכרון לבני ישראל העולם.
Alors naturellement, cette traversée ne se fera pas sans une évocation, un discours important de Yehoshua ben Nun. Il va remplacer d'une certaine manière la Shiratayam, le cantique. Moi j'aurais préféré qu'on chante quelque chose, mais encore une fois, c'est pas pareil. Quand on sort de Yam Souf et quand on rentre en Eretz Israël, on va dès le lendemain pratiquement entamer un combat très très rude, très dur, dont on ignore l'issue, et donc on a besoin plutôt d'être réconforté, comme les Shoftim et les Kohanim qui, dans la paracha de Shoftim précisément, exhortaient le peuple, les soldats, à mener cette guerre, on va l'appeler la guerre sainte, et les encourager au nom d'Hachem, alors dans Shema, Israël, Hachem, Kerevi, Mayom, etc. Et donc il s'agit d'un discours qui va haranguer nos troupes, pour leur permettre justement d'entrer en Israël, non pas pour le conquérir comme des impérialistes, pas du tout, mais pour tout simplement concrétiser la promesse d'Hachem. Et la première des applications, c'est d'édifier un monument avec 12 pierres, ce sont les 12 tribus d'Israël, comme les 12 pierres sur lesquelles Yaakov Avinu avait posé la tête pour lors de la vision de l'échelle de Jacob, du Soulam, et qui vont s'unifier tous en une seule. Eh bien, c'est ce rêve-là de Yaakov qui va maintenant se réaliser sous nos yeux. On va prendre 12 pierres qu'on va édifier, non pas pour dire c'est nous les plus vaillants, c'est nous les plus forts, comme on l'avait dit la dernière fois, l'arc de triomphe, machin, la statue de la liberté, pas d'ailleurs. Non, On va prendre encore 12 autres personnes qu'on va installer au Arébal pour écrire toute la Torah dans les 70 leshonot, dans les 70 langues. Pourquoi ? Pas parce que monsieur, tu viens de, toi de Constantine et tu parles le français, ou toi tu viens de Bulgarie et tu parles le bulgare. C'est pas pour nous les juifs qu'on écrit en 70 langues la Torah. Nous on la connaît déjà, Baruch HaShem, on l'apprendra encore en la Shona Kodesh, en langue sainte, mais elle est destinée aux nations du monde. Ils ont loupé le coche lors du Mahamad Har Sinai, et là on leur dit, si on est en Eretz Israël, c'est pour proposer encore la Torah. C'est comme une mezouza qu'on institue à l'entrée d'une maison, et bien la Torah, c'est la mezouza par excellence, pour le monde tout entier, mais aussi pour Eretz Israël, et on dit par là, la porte est ouverte même aux nations du monde, pour que tout le monde, pas seulement les Juifs, tous ceux qui veulent l'appliquer, puissent vivre même géographiquement à l'intérieur et sur le sol d'Eretz Israël. C'est une ouverture extraordinaire, c'est tout le contraire d'une guerre qui va saper du Dar al-Harb, de la maison de la guerre, comme les autres ils sont, ils le revendiquent en disant Allahu Akbar, etc. Non, notre entrée en Eretz Israël laisse la porte ouverte et c'est le symbole de ces 12 pierres qui vont constituer un autel, un Mizbeach au mont Ebal, sur lequel on va faire les bénédictions et les brachot et les klalot, comme cela a été indiqué déjà dans la paracha de Kitabo avec Moshe Rabbeinu. Voilà ce que représente ces Shnei Masar Avanim. La Gemara toujours de ce tas, et dans le cadre de la Guzma d'exagération aussi, indique que chacune des pierres que portait un des dirigeants, un des chefs de tribu d'Israël, pesait, j'ose même pas vous dire le poids qu'elle faisait. J'ose même pas vous dire. Elle faisait le poids à peu près, je crois, de 120 fois le poids d'un mikvé. C'est étrange d'ailleurs comme expression, hein. Un mikvé, vous savez, c'est au moins, je ne sais pas, en gros, 260 litres. Hein. C'est une hama sur une hama, une coudée sur une coudée, sur trois coudées de haut. Vous voyez un peu le topo, j'ai fait le calcul. Bon, en gros, c'est 120 fois. Quelque chose de colossal. Et à partir de cela, d'ailleurs, la Gemara là-bas, elle dit, ça c'est rien du tout. Ce que chaque homme pouvait porter, sur la pierre qu'il portait tellement lourde, mais il arrivait parce qu'il était aidé par deux hommes. Il dit, mais maintenant, si je fais le calcul de la grappe de raisin que les explorateurs ils ont ramené avec du temps de Moshe Rabbeinu, j'ose même pas vous dire, c'est 960 fois le poids d'un mikvé. Et c'est étrange cette expression de poids d'un mikvé, vous comprenez? C'est une unité comme ça, une unité de mesure étrange qui vient ici se loger, alors que le Hachamim, ils ont d'autres notions. On parle de Kavim, on peut parler de Séa, on peut parler de... Vous voyez, j'ouvre une petite parenthèse à propos d'unité, d'une mesure et tout. Quand on a dit dans la paracha avant-hier, hier, je ne sais plus, et Abraham Bakol, Dieu a béni Abraham dans tout, il y a deux rabbins qui se disputent. Il y en a même trois, mais deux. Un, c'est Rabbi Meir, il dit, tu sais que c'est quoi la bénédiction d'Abraham? C'est qu'il n'avait pas de fille. Ah, le chinois, il n'a pas de fille. C'est qu'il n'a pas de fille. Alors, à Boa Ali, j'en ai huit, moi. C'est ce que je vais dire. Tu comprends? Il est trop, il avait sept filles, etc. Alors, et c'est Rabbi Meir. Et l'autre, il dit, je crois que c'est Rabbi Yehuda, il dit, non, Dieu a béni Abraham en tout, Bakol, parce qu'il avait une fille, et elle s'appelait Bakol. Ouais, vous vous rappelez, vous avez entendu ces explications. En vérité, selon Rabbi Meir, ça veut dire heureusement qu'il n'avait pas de fille. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les filles, parce que, ben oui, à qui il voulait qu'il marie sa fille. Déjà pour, comment? Mais c'est sa fille, il ne veut pas la marier à Israël. Et non. Abraham qui aimait trop la Torah Kula, donc il ne pouvait pas effectivement marier une sœur avec un frère. Et donc il n'y avait pas de possible. Quand on connaît la tronche dans Laban, on comprend très bien qu'il ne pouvait pas donner sa fille Bakol, qui s'appelle Bakol, à monsieur Laban. Donc ce n'était pas une misogynie de la part de Rabbi Meir. On sait par ailleurs qu'il est extraordinaire Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit non, il avait une fille, elle s'appelait Bakol, étrange. Alors on cherche, on ne comprend pas, mais où tu as vu toi qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol? On n'a jamais entendu parler d'elle. Alors il explique certains de nos hachamim, il dit, en vérité, ce Bakol, c'est une mesure, comme Bat-Kol, tu vois, avec un taf, le col. Bat. Le mot Bat, ça veut dire une mesure. Comme Shlomo HaMelech, il avait fait un kiyo, un très grand bassin, où les Kohanim se lavaient les mains, et les pieds avant d'entrer dans la avoda, t'es obligé. Du temps de Moshe, t'es un cure, tranquille, comme ça, ouais, bah. Mais du temps de Shlomo HaMelech, il a fait, ça s'appelait d'ailleurs un yam, une mer, un océan, tellement c'était grand, merveilleux et tout. Et là-bas, ils disent, bête, la contenance du bassin, qu'on appelle l'océan de Shlomo HaMelech, dans son Beit HaMikdash, bat yachil shalish, il contenait, bat, c'est une mesure. Et il dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a béni Abraham dans tout. Qu'est-ce que c'est dans tout? Qu'est-ce qu'il peut avoir tout dans le monde? Où tu as vu tout ça? Où ça? D'ailleurs, on voit, il va donner un tas de cadeaux, des millions de cadeaux aux filles des concubines, aux filles enfants des concubines. Et après, c'est écrit, il a donné à Israël tout. Là, je t'ai donné, c'est pas tout. C'est ça, les tzadikim. Adonai Berach et Abraham, Bakol. Ce qu'il a, il appelle Kol. Tu comprends? C'est une mesure suffisante. Baruch Hashem, il n'était pas pauvre Abraham, mais c'était la mesure exactement suffisante qui lui convenait. Qu'est-ce qu'ils disent les Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'ils disent? Ezeu Ashir, Samiach Behelko. Moi je dis celui qui est riche. Alors celui qui est riche, eh bien celui qui est riche. Attends, je me trouve à New York, c'est celui qui a 16 millions de dollars. C'est pas vrai. Parce que celui qui est riche, qui a 16 millions de dollars, il dit, qu'est-ce que vous racontez? Moi je suis riche, je suis pas riche du tout. Regarde l'autre, il a combien? 3 milliards de dollars. Donc une seconde, c'est relatif, vous comprenez? C'est tout à fait relatif. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, mais pour les Avot, c'est Bakol, Mikol, Kol. Comme il dit Yaakov, le reste ça veut dire Shlira, il dit Shlikol, j'ai tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Voilà, c'est ça la bénédiction que Dieu a donnée. On continue.
Madame Malon, c'est quoi le Malon?
Le Malon, ça veut dire la première étape. Ils sont arrivés au Malon, ça va être à Gilgal, c'est la première étape de l'entrée en Eretz Israël. Gilgal, on l'appelle Malon, ça veut dire la première étape où on va passer
la nuit,
où on va s'installer.
Comme la lune,
passer la nuit. Malon vient du mot. Yirmiya, quand il a ras-le-bol de juif, excusez-moi l'expression, il n'en peut plus, Jérémie, tu sais. Et c'est pas le seul qui a ras-le-bol, entre guillemets, de nous, mais il pleure, il est, attention, quand il a ras-le-bol, c'est pas qu'il a ras-le-bol des juifs, mais enfin, bon, il y a des moments où, et ben, il dit, il est tenli, malon, bamidbar, mon Dieu, donne-moi un abri, on pourrait traduire comme ça, dans le désert. Il y a des moments où on a envie d'être seul, vous voyez, je veux dire un peu,
Le man te yezot od bekirbechem, ki ishalu benechem machar lemor ma avonim aile lachem, ואמרתם להם, אשר נתקוטו מימי הירדן, מפני ארון ברית אדוני, בעוברו, בעוברו בירדן, ונתקוטו מימי הירדן, והיו אבנים האלה לזכרון לבני ישראל עד עולם.
Ces pierres sont un souvenir de notre traversée du Yarden.
ויצאו לכם בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויישאו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון ויניחום שם. ו12 אבנים הכין יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושא ארון הברית, והיו שם עד היום הזה.
Jusqu'à ce jour, où le texte est écrit, se trouvaient encore les 12 pierres, mais en vérité, il y a plus que ça. Il y en a 12 édifiées là où se trouvaient les Kohanim qui vont quitter le Yarden, là où ils ont posé les pieds, sur la rive orientale, et 12 autres vont être transportés au Malon, c'est-à-dire à Gilgal, mais avec un détour vers le mont Eval pour faire un autel, avec des sacrifices, il n'y a même pas de sacrifice, écrit la Torah, et ensuite vers le Gilgal. D'après d'autres, toujours dans la Gemara de Sota, il y avait pas seulement 2 fois 12 pierres, il y avait encore une troisième série de 12 pierres. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Il faudrait peut-être dire tout simplement, comme il y avait, vous savez, des Hachamim, quand ils quittaient Babel pour venir en Eretz Israël, ils embrassaient la poussière de l'Eretz Israël. Vous vous rappelez de ça? Ils embrassaient. Ils arrivaient, ils se prosternaient, comme nous on faisait quand on arrive la première fois en Eretz Israël, on a pris l'avion, on arrive, ou le bateau à l'époque, on s'est mis à embrasser la terre. On s'est même embrassé le sol comme ça de Eri. Wit Afara Yahonenu, Kiratsu Abadecha et Abaneha, Wit Afara Yahonenu, car tes serviteurs, ils trouvent un désir ardent vers les pierres d'Israël et ils embrassent la poussière. Il la supplie, même Yahonenu, trouve une grâce dans la poussière d'Israël, c'est mieux que tout l'or d'ailleurs. C'est joli ce qu'ils vont dire. Bon, voilà.
Verkwanim, Mosé Aaron. עומדים בתוך הירדן עד תום כל הדבר
אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה אל יהושע, ואת יהושע, וימרו העם ויעבור. ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור אהרון אדוני והכהנים לפני העם. ויעברו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה חמושים לפני בני ישראל כאשר דיבר עליהם משה.
Voilà. Alors, il y a une référence à nouveau, non pas discrète, mais méritée de Moshe Rabbeinu à chaque fois, mais Yoshua, le texte, le texte lui-même font toujours référence à Moshe Rabbeinu. Ils ont besoin de dire son nom, ils ont besoin qu'il les accompagne tout le temps. C'est le grand absent de l'entrée en Eretz Israël. Et ce doit être le plus grand présent qui doit rentrer, comme on le sait. Il est là, il est vivant dans les cœurs, et puis voilà. S'il était entré, on aurait construit le Beit HaMikdash, et puis on a encore un chemin. On n'aurait jamais. Il est caché, il va donner à être Moshe, et Yoshua, c'est son disciple, il ne peut pas. C'est l'ombre de Moshe Rabbeinu. C'est l'ombre, il ne peut pas faire un pas comme ça. Il a besoin de dire son nom. Dire le nom de Moshe Rabbeinu, c'est une force extraordinaire. C'est quelque chose. Et ils l'ont dit, tu sais, ils vont le voir tous, quand ils vont voir ça, ils disent, tu sais, Yoshua, tu es extraordinaire, tu es comme Moshe Rabbeinu. Et il faut toujours aimer les dirigeants, le grand rabbin d'Israël, comme si c'était aujourd'hui le Moshe Rabbeinu. Ifka Bedoro, Kishmoel Bedoro. Je ne vais pas s'amuser à dire. C'est vrai que la Gemara a dit, si les gens d'avant c'était des malachim, nous on est comme des êtres humains. Si c'était des êtres humains, nous on est comme des ânes. Comme ça a dit. Ils disent, on n'est même pas comme des ânes, on n'est même pas comme l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a une Yeridat Adorot et tout. On n'est même pas comme l'âne d'un rabbin qui s'appelle Pinhas ben Yair, que celui-là, sur cet âne, c'était un grand Haredi. C'est-à-dire que tu lui donnes à manger, il ne mange pas tout de suite comme ça. Il faut qu'il passe netter la tiade d'Aïmama et tout. Et il faut que son maître, il sente. Tiens, ils n'ont pas enlevé de ma'aseur, tu te rends compte? On raconte sur l'âne de Rabbi Pinhas des choses incroyables. Il a été pris en captivité, ils l'ont volé à son âne et tout. Des brigands, des mafieux. Ils l'ont pris, ils ont dit, on va lui donner à manger et tout. Il n'a pas voulu manger. Ils ont dit, on va le rendre, c'est pas possible celui-là. Ils l'ont rendu. Et des mafieux très sympathiques. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quoi? On lui donne à manger, il ne veut pas manger. Il dit, mais vous êtes fous. Est-ce que vous avez fait Troumot ou Ma'atrot ou pas? Tu te rends compte? Et nous, on se demande quand on fait la halla, il faut l'enlever, comment on fait, tout ça. Un âne, l'âne. Il dit, si eux, c'était les anciens, c'est comme des hommes, nous, on est comme des ânes. Et même pas comme l'âne de Rabbi Pinhas, ben Yair, tu comprends? Oui, mais, si on est des ânes, eh ben, on mérite d'avoir un grand rabbin des ânes. Excusez-moi, je veux dire, chaque génération, elle a. Dordor Midorchev, Dordor Minhagab. Dame Arishon, il a regardé, il avait un grand écran dans le ciel, il avait toutes les générations. Regardez, Teilim, il le dit. Regarde, dans une phrase, comment David, il dit les choses. Gol mira'u anecha. Tes yeux, Hachem, ils ont vu mon golem. C'est-à-dire mon golem, c'est-à-dire dans l'intérieur de Adam Arishon se trouvent toutes les âmes réunies de toutes les générations. Il lui a dit, tu as vu celui-là? C'est Bibi Netanyahu. Le Gabon. Oui, tu sais, il va faire ça. Tu as vu celui-là? C'est, comment il s'appelle? L'Ahmou Ishaq Rabin. Tu as vu celui-là? C'est le grand rabbin de machin. Tu as vu celui-là? Il m'a montré tout. Il a tout vu Adam Arishon. Le golem Ra'ou Anecha. Moshe Rabbeinu aussi comme ça. Il dit alors, mais celui-là, il a l'air moins que plus. Il dit, il n'y a pas de moins, ni moins, ni plus, ni moins, ni rien du tout. C'est tout. On a le dirigeant qu'on mérite, et les générations, soit le dirigeant, il mérite sa génération, soit la génération mérite le dirigeant, quel qu'il soit. Et eux, ils ont dit, il n'y a jamais eu de dispute du temps de Yoshua, même que du temps de Moshe, avec des mahlokot, avec Korah, avec tout ce que tu veux, avec Datan Baviran, etc. Moshe. Mais ouais, c'est Moshe. Mais du temps de Yoshua, calme-toi. Il n'y a pas une seule réprimande, il n'y a rien du tout qui se passe. On est devant un homme vraiment qui prend sa mission au sérieux et il la prend parce qu'il la prend au nom de Moshe Rabbeinu. Voilà. À ce moment-là, il y a la première chose. Yoshua, il semble sursauter. Il dit, ça y est, on va commencer la conquête. Et brusquement, il y a deux tribus qui arrivent. les enfants de Gad et les enfants de Reuben. Il ne s'attend pas, il les voit arriver à Halutzin, 40 000 hommes. Il dit, on est les premiers, on avance les premiers. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, oui, vous avez promis à Moshe Rabbeinu, parachat de Matot et de Masré. Ils ont dit, parce qu'ils avaient des troupeaux, ils étaient riches et tout et tout. Et ils ont vu les territoires qu'ils ont gagnés de Sihon et de Og, Melech HaBashan, etc. Ils ont dit, nous on s'installe ici, hein, les gens de Reuben et de Gad et tout. Moshe Rabbeinu était en colère. Quoi? Vous laissez vos frères faire tout seul entrer, etc. Il y a tout un dialogue extraordinaire, pathétique et tout. Il leur dit, mais non, on n'a pas le temps de l'évoquer là maintenant, aujourd'hui. Il dit, non, mais non, t'inquiète pas, on va aller avec eux. Il dit, on va aller avec les Juifs pour faire la guerre. Moshe Rabbeinu s'énerve encore plus. Mais ils t'ont dit, on va, il n'y a pas de problème, on reste ici et tout. Non, non, on va y aller, on sera les premiers à faire la conquête. Nous, les enfants de Gad, tu sais Gad qui c'est? Dans la bracha de Yaakov Abenu, il a dit Gad Gedou de Godenu Iwagud Aqib. Il a dit celui-là où Taraf, Zerouaf Kotrod, il prend un ennemi, il lui enlève la tête en même temps que le bras. Le type de Gad, méfie-toi. Tu vois un type qui s'appelle Gad, méfie-toi de lui. C'est incroyable. Ils étaient costauds, les Gad, attention. Reubenu, il n'y a pas de problème. On va rentrer, on sera les premiers. Et Moshe se met en colère. Regardez dans la baracha là-bas. Alors Rabbi dit, mais qu'est-ce qu'il a mouché? Mais ils ont promis, ils ont cette terre de Sihon et d'Og, laisse-les tranquilles, ils ont plein de troupeaux et tout. Ils ont, on laisse nos femmes, on laisse nos enfants, on fait d'abord les trucs, on va faire les pâturages pour les troupeaux, et après on fait pour les maisons, pour les femmes. C'est ça, vous mettez les troupeaux d'abord avant les femmes et les enfants. Je vais vous passer d'abord des maisons pour vos femmes, installez-les correctement et vos enfants et tout, et après faites pour les troupeaux. C'est ça l'argent et vous aveugle comme ça. C'est pour ça qu'il était énervé. C'est le premier point. La deuxième chose qu'il était énervé, d'ailleurs regardez là-bas bien le texte, ils disent on rentre, on va gagner, on veut gagner, on a des tanks, on a des avions, on a tout ça, on rentre, on voit. Quand on boit, l'ikum. Est-ce que vous allez venir l'ifne Hashem? Regardez combien de fois Moshe Rabbeinu reprend. Et est-ce que vous l'avez de l'ifne Hashem? Vous êtes sûr que vous allez tenir votre promesse l'ifne Hashem? Trois ou quatre fois il emploie le mot. Devant Dieu, devant Dieu, devant Dieu. Vous avez compris? Ça veut dire, moi, je ne vous demande pas, moi, vos muscles et vos machins et tout. Tant mieux, il faut de la force. Tu comprends? Et si vous dites, on va devant Hachem, avec l'aide de Hachem et tout, toujours qu'il faut avoir le nom de Dieu dans la bouche. Ils ont dit, oui, tu as raison. Quand ils ont répété, ils ont dit, répétez là, le tnaï, ce qu'on appelle tnaï, il est kafoul de Reuben et de Gad. Un tnaï kafoul, double tnaï. Si oui, vous venez, vous faites comme ça, ça va. Sinon, vous faites pas, c'est ça qu'on appelle un tnaï, une condition bilatérale, deux points. Ou oui, vous venez, ça se passe comme ça. Sinon, comme ça. C'est comme ça qu'on fait un tnaï. Ils ont répété, et il était là, moi j'ai dit, attends, j'écoute bien. Ils ont dit, l'ifnachem. On a dit, bon, d'accord. Et c'est ce qu'ils ont dit maintenant, ils ont dit à Yoshua, maintenant on rentre, on est à Halutim, comme on a promis du temps de Moshe Rabbeinu, tu vois, ils ont tenu leur promesse.
Bayom Aou, Gidal Adonai et Yoshua ben Kol Israël.
Ce jour-là,
Ouoto Kasher Yaro et Moshe Kol Yisraël.
Ah, Oued Moshe, il est là encore à nouveau, tu as vu. Ce jour-là, Dieu a grandi, a élevé aux yeux d'Israël la stature de Yoshua. Comme il l'a fait du temps de Moshe.
Vayomer Adonai el Yoshua lemor. Tave et hakohanim notzei Aaron ha'edut ve'ya'alu min ha'yarden. Vayetzav Yoshua et hakohanim lemor alu min ha'yarden. Vayehi ka'alot hakohanim notzei Aaron brit Adonai.
Ka'alot ou ba'alot. Et un correctif. Et ce correctif. Alors, les Juifs, ils traversent tous. Et qu'est-ce qu'il faut à l'école? Ils attendent. Il y a une mahloquette là-dessus, ils ne peuvent pas rentrer là-dedans non plus. Pour moi, je pense, d'après certains, qu'ils étaient restés encore sur la rive orientale. Tout le monde est apprécié là. Il y a une mahloquette là-dessus. Après, Ba'alot ou Ka'alot à Kohanim, à partir de ce Ka'alot, quand ils sont montés les Kohanim, hein, ça veut dire qu'ils ont survolé le Yarden. Ils ont survolé. Pourquoi? D'après certains, l'eau, elle est redescendue. Maintenant, comment tu veux qu'ils traversent? Quoi? Eux qui ont asséché le Jourdain pour laisser passer tous les Juifs, Nahon, ils sont passés combien? 6 millions de Juifs comme ça. Maintenant, eux, ils veulent aller. Ils ont péché, ils se sont surélevés, comme si le Aaron les avait soulevés pour traverser à nouveau le Yarden.
Vayi ka'alot ha-kohanim nosei Aaron brit Adonai mitoch ha-Yarden nitku kapot ragli ha-kohanim el ha-rava v'yashuvu me-Yarden imikomam v'yelechu kitmol shelshom al kol gdotav.
Voilà, les eaux sont revenues comme hier et avant-hier sur toutes ces rives.
והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגלגל ויאמר לבני ישראל לאמור אשר ישאלון בניכם מחר את אבותם לאמור מה האבנים האלה והודעתם את בניכם לאמור ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף אשר הוביש מפנינו עד עוברנו.
À nouveau, Yeshua réédite ce que représente ici les douze pierres. Hein? Vous direz à vos enfants, n'oubliez pas de dire à vos enfants, n'oubliez pas que ces douze pierres, c'est le témoignage de notre traversée du Yarden. On a l'impression que c'est une muraille, ce Yarden. Oui, mais on a l'impression que c'est franchement de traverser un... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a des gens qui ont traversé l'océan. Comment ça s'appelle le cours là, les coureurs là, dans les bateaux là, hein, ah, ouais. Stream. Ils font des traversées d'océan. Regardez, Jonas, il a fait catamaran, etc. Tiens, on a l'impression que cette frontière du Jourdain, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On dirait que c'est. Il y a un midrash, c'est dans la Gemara qui raconte que le Yarden. Il y a un monstre qu'Akadosh Baruch Hu a créé, un monstre mythologique qui s'appelle le Léviathan. Le Léviathan. Léviathan. Léviathan zeh asar talitahego kulamenecha isaberun. Léviathan, c'est une force de la nature qui aurait pu faire retomber le monde dans le chaos, de manière naturelle. Le monde, depuis la création, il renferme à la fois une possibilité d'expansion, une possibilité de construction, mais aussi une possibilité de destruction. Il y a dans la nature de l'être, de l'existant, l'inexistence. Il y a dans la volonté de vivre, une volonté de détruire aussi. Et cette volonté de détruire, beaucoup de rabbins le disent, le Rav Kook parle beaucoup de ça et tout. Il y a des forces de la nature comme le Bahamut, Sadaï et le Léviathan qui vont se combattre et tout, comme si à la fin, il y a pas un dégoût, mais un rejet de l'existence qui se fonde dans cette image du Léviathan. Et une des images là-bas dans la Gemara du Léviathan, on dit que le Léviathan, il y avait un couple, et Dieu a salé la femelle, et il a mis de côté, comme ça, dans un congélateur là-bas, comme ça que ça va servir de souda, de repas pour les tzadikim, les hatid labou, dans les temps futurs. On va manger, je te dis, pour Adam le Hôte, je te dis pas. Une boutarde, en plus de folie, de femelle de Léviathan. Et c'était la plus dangereuse. Je dis, pourquoi la femme et pas l'homme? Je dis, la plus dangereuse, c'est la femme. Bon, excusez-moi, mais c'est ça. Je vais saler, conserver tout. Mais l'homme aussi, le mâle était très très dangereux et tout. Il a laissé en vie. Il a laissé en vie. Et ce Léviathan, on raconte sur lui un tas de choses incroyables et tout. Entre autres, on raconte qu'il aspire tout ce qu'il veut. Il aspire, d'abord, il a une nutrition colossale, démentielle, une nutrition incroyable. Mais il boit de temps en temps. Et quand il boit les eaux qui descendent du Yarden, entre autres. Il est là, il veut étancher sa soif avec les eaux du Yarden. Et il a un souffle, une exhalaison de son haleine qui est tellement forte, tellement dangereuse et forte, qu'elle peut entrer jusqu'au Gan Eden, qu'elle peut détruire même le Gan Eden. Et heureusement qu'il y a devant le Gan Eden les fameux kéroubim, là, des êtres qui ferment le passage du jardin d'Éden et tout, et qui ne laissent pas entrer cette haleine affreuse, terrible, menaçante, destructrice du Léviathan. Et tout de suite, ce qui se passe, et on a l'impression que le Jourdain presque qui se jette dans la gueule du Léviathan. Alors, on voit qu'on a la difficulté qu'on a, nous, à rentrer en possession de ce que Shem veut nous donner, parce qu'il y a, Mais plus que la menace des Philistins, des Cananéens, des Hémorites, des Hévites, des Yébusites, des Girgashites et tout, on a l'impression qu'il y a une force démentielle, démoniaque, qui peut nous empêcher d'hériter. Regardez, regardez, Eretz Israël, malgré la Aftahot et tout, et tout, et tout, il a fallu qu'Abraham il achète un morceau de terre, tu te rends compte ? Une grotte de rien du tout, en tout cas qui n'avait aucune apparence sérieuse, intéressante, même pour le propriétaire des lieux, qui s'appelle Hefron. Regarde, il dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Il a fallu qu'Abraham court derrière le Bakar pour voir que c'était là-bas l'entrée, comme on a dit, Hebron, du Gan Eden là-bas, et qu'il a fait l'acquisition. À tel point qu'Hebron dit, Moucha Ochlima, tu vas acheter un trou, qu'est-ce que c'est ça, il va acheter un trou. Mais c'est Elohim Atta, c'est le prince de Dieu parmi nous. C'est ce qu'il dit Ramban, pour cette histoire de Naharata Machpela. Il dit, tu sais pourquoi on raconte toute cette histoire de Sarah d'Abraham, rien que pour nous enseigner, Ramban, rien que pour t'enseigner, que bien qu'il leur ait dit Gervetosha Vanochi Emachem, regardez comment il est, je suis encore un étranger et un résident parmi vous. Choisissez. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Le premier mot, Ma Adoni, Nessi Elohim Ata, tu es le prince de Dieu. C'est extraordinaire. Rien que pour qu'on appelle Abraham le prince de Dieu. C'est-à-dire que tu es un prince de Dieu, on le reconnaît. Tu flottes dans les. Tu es un prince divin. Mais lui il dit, oui, moi je d'accord, je suis un prince de Dieu. Moi je veux un bout de terre comme ça. Je te rends compte, Martel Aftaha, Aval al Avdin ou la Mishtakhin. Et là, c'est ceux qui ne sont plus de nos jours comme ça. Abraham Abinou Ishaq, je leur ai promis la terre, je leur ai rien donné. Quand il a voulu enterrer Sarah, il a fallu qu'il sorte 400 000 dollars, t'entends ? De l'époque. Qu'est-ce que je raconte ? Des euros plutôt. 400 000 euros, c'est beaucoup plus important. Et c'est pareil pour Yaakov, il a acheté un morceau de terrain du côté de Shrek, qui va être le lieu de sépulture de Yosef Hatzadik. Ça va être pareil, David Amelir, tu te rends compte ? Le Harabaït, là où on va construire le Beth Amikdash, il a acheté un Goy, à Ravna, à Yebusi, qui était d'ailleurs un homme charmant, entre parenthèses. Il dit, je veux acheter tout ça. Il dit, non, il dit, je veux acheter. Il a senti, il était avec le prophète Gad Ahosé, hein, il était avec lui pour lui donner l'emplacement exact du Misbéa dans le Harabaït, parce que c'est là qu'il faut faire. Là où Abraham, il a sacrifié son fils. Quand je dis sacrifié, c'est vraiment sacrifié. Hein. Vous allez me dire, mais il est vivant, il sera que lui. Mais on en reparlera, c'est peut-être Shabbat si Dieu veut, quand on parlera de Yitzhak Abinou. Hein. Il dit, mais il a sacrifié un Haïl. Le Harizal, il dit, oui, tu sais ce qu'il a fait, il a sacrifié le Haïl. Pourquoi on dit que Dieu se souvient de la cendre de Yitzhak et Pharo, elle est Mounahat al-Gabé à Mizbeyah? Où tu as vu qu'il y a de la cendre de Yitzhak? C'est ce qu'on dit dans nos prières. Et dites à ma mère, voici les cendres de son fils. On dit toujours, Dieu, souviens-toi des cendres. Mais il a pris un bélier, il a pris un haïl, Nahon, et c'est ça qu'il a fait à la place. Zohar HaKadosh, je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé, tu rigoles, toi, tu n'as rien compris. La Neshama de Yitzhak, quand il a vu ça, qu'il n'a pas fait la avoda comme il fallait, sa Neshama, son âme, elle est rentrée dans le haïl. Elle est rentrée dans le haïl, dans l'animal. Et quand Abraham il a sacrifié l'animal, t'as compris ? C'est-à-dire, le haïl, c'était Yitzhak. Ouais, le texte là-bas dit, il a sacrifié le haïl tahat Yitzhak, à la place. Que ça veut dire tahat, sous Yitzhak. Ça veut dire que c'est Yitzhak qui était pour ainsi dire. Yitzhak. Il était là-bas comme ça. Alors pourquoi je parle de ça, moi ? Pourquoi?
Parce que
le
Shabbat, on va parler
d'Israël. Ah oui, non, avant Shabbat. Bon,
les mains.
Ah oui, regardez, donc, voilà, cette terre-là, comme ça. Il a fallu qu'ils achètent et Abraham, et Yaakov, le Helkatasadé de Yosef, et David pour le Harabaït. Il a payé 600 dinars d'or, 50 dinars d'or par tribu. L'autre, il lui a dit, mais non, je vais te donner, j'ai des bœufs, j'ai des semés de bacage et tout ça, je te donne le bois de la charrue, hein, que tu fasses du feu pour le corban, et je te donne mes animaux, tu peux. Il a dit, pas du tout, il a dit David, je veux acheter. Tu te rends compte ? Il a acheté. Tu sais, c'était le Harabaït, c'est ce que c'était le Beth Amikdash du temps de David, c'est incroyable. C'était une grange. Alors il s'appelle Aravna dans Shmuel, et la même histoire dans Devira Yamim, la même histoire quand David l'achète, le type il s'appelle comment? Ah, Ornan. C'est joli Ornan. Et regarde ce qui est étrange, c'est qu'il est cité 10 fois, regarde, un goy qui avait le rabbin, qu'il a vendu avec beaucoup de... Contrairement à iPhone, il a dit non, je l'achète. Il est mentionné 10 fois, comme dans Haïtara, combien de fois ils sont mentionnés les Benehet?
10 fois.
Pourquoi? Pour te dire que celui qui fait une transaction de cette nature avec un tzaddik, c'est comme s'il avait reçu les 10 commandements. Incroyable. Les Hakamim qui dit ça. C'est comme si, et pourtant c'est les fils de qui? C'est les fils du Het, du péché. Bon.
למען דת כל עמי הארץ את יד אדוני כי חזקי למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. סוף פרק ד'.
פן דו שפיטרו קטר
פרק ה'
לא רוצים voilà, c'est la fin du chapitre 4. Si vous avez des questions pour clôturer notre shiur, je crois qu'au chapitre 5 il va être question d'une nouvelle d'un nouvel événement très très important aussi. Y a-t-il des chélotes? Hein? C'est Shimshon,
oui, le chiffre 4, 400.
Le chiffre 400, c'est dans la paracha.
Oui, mais tu as soulevé là aussi.
J'ai soulevé le fait qu'on a fait l'acquisition de ces 3 lieux, qui d'ailleurs font l'objet de disputes de nos lieux, qui ne sont pas entre nous-mêmes, malheureusement. Oui, non. 400, oui, c'est un chiffre un peu funeste, il faut le dire, quelque part. Et un peu funeste. C'est la valeur de Aïn Ra'ayn. Ephron, le vendeur de la Mehara, s'écrit Aïn Pe Reshnoun. Il manque un vav là-bas. D'accord? Qui fait Aïn Pe Reshnoun, 70, 80, 200 et 50, ça fait combien? Comme on est des grands, des bons compteurs, les juifs, ça fait 400 tout de suite. Je ne croyais pas que je fais tout de suite calcul, il y a un mais je le disais bien, hein, je savais avant. C'est 400, ça fait 400. Il va dire, un bec, blablabla. Regarde Ephron, comment il s'appelle. Le Zohar, il dit, Ephron, ça vient du mot Afar. C'est maman, c'est le Afar. C'est le Malach Amavet, sur terre.
Ah, et Esav, il est venu avec un bâton de Shimon.
Et Esav, il est venu, on va le voir dans la parasha de Vaishla, avec 400 hommes. Il est venu avec 400 hommes. Et il y a des références aussi un peu comme ça sur ce chiffre-là.
400 ans dans le désert.
400 ans dans le Mitzrayim, en Égypte. Arba Meotchana, si on compte à partir de, etc. Oui, oui. וישעם דלבותינו טררם 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 טררם